When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Une étude réalisée par Career Builder et une autre par Monster révèle un fait interpellant. Respectivement, 70% et 65% des salariés éprouvent des difficultés à dire non à leur manager et à leurs collègues. Qu'est-ce que cela nous dit sur notre environnement de travail sur nous-mêmes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dire non au travail et surtout à une figure d'autorité ou à un collègue avec qui on partage nos journées peut sembler une montagne infranchissable. Et il est assez logique que dire non à un collègue soit un petit peu moins compliqué que de dire non à son manager. Mais pour beaucoup, cela renvoie à la peur du conflit, du jugement ou encore à celle de mettre en péril sa position ou ses relations au sein de l'entreprise. Et oui, dire oui, c'est toujours plus simple. Mais pourquoi est-il si difficile de poser nos limites ? Pour certains, il s'agit d'une question de culture d'entreprise, où la disponibilité et le dévouement sont valorisés au-delà de la santé et du bien-être des employés. Pour d'autres, cela révèle d'une quête de reconnaissance et d'appartenance. Face à un manager, la difficulté de dire non peut également traduire une hiérarchie perçue comme rigide ou peu ouverte au dialogue. Quant à la difficulté de refuser une demande d'un collègue, elle peut révéler la crainte d'altérer l'harmonie de l'équipe ou de paraître non coopératif. Les experts en psychologie du travail et en management nous éclairent sur un point crucial. Apprendre à dire non est essentiel pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et personnelle. C'est aussi une compétence clé pour affirmer son leadership et sa capacité à gérer son temps et ses priorités efficacement. Alors, comment naviguer dans ces eaux délicates ? La communication assertive apparaît comme un outil puissant. Elle permet d'exprimer ses besoins et ses limites de manière claire et respectueuse, sans pour autant fermer la porte au dialogue ou à la collaboration future. Dire « non, je ne peux pas le faire maintenant, mais est-ce que cela te convient si je le fais demain ?» c'est un bon moyen de dire non, sans vraiment dire non. C'est ce que j'appelle le non positif. Face au défi de dire non, rappelons-nous que chaque petit pas vers l'affirmation de soi contribue à construire un environnement de travail plus sain et plus équilibré. Alors, vous, à l'aise pour dire non ? Si ce n'est pas le cas, un peu d'entraînement et vous allez voir, vous allez y gagner énormément. Deux études récentes nous éclairent sur un défi partagé tant par les managers que par les salariés français. D'une part, l'observatoire Segos, qui nous révèle que 60% des managers français éprouvent des difficultés à communiquer un feedback négatif. D'autre part, une étude de Dale Carnegie Training indique que 55% des salariés estiment ne pas recevoir suffisamment de retours de la part de leur manager. Quelles sont les implications de ces chiffres pour notre bien-être et notre efficacité au travail ? En fait, la communication d'un feedback constructif est un art délicat qui requiert équilibre et sensibilité. Pour les managers, le défi est double. Comment exprimer les axes d'amélioration sans décourager ou froisser ? Il s'agit d'une compétence essentielle qui influence directement l'atmosphère et la performance au sein des équipes. Il y a une grande différence entre dire à un collaborateur ou une collaboratrice « ce que tu fais, c'est nul » par rapport à dire « écoute, je pense qu'on aurait pu faire mieux et je vais t'accompagner pour que ça soit le cas ». Alors pourquoi tant de managers hésitent-ils à franchir le pas ? Eh bien, le manque de formation sur les techniques de communication efficaces est souvent pointé du doigt. De plus, la crainte de démotiver les équipes ou de créer un climat de tension peut paralyser. Oui, il n'est pas simple de dire à quelqu'un que son travail aurait pu être mieux fait. Du côté des salariés, le besoin de reconnaissance et de direction est palpable. Un feedback insuffisant ou absent peut semer le doute, freiner la progression personnelle et professionnelle et à terme, nuire à l'engagement envers l'entreprise. Et non, un feedback, ça ne se fait pas uniquement pendant l'entretien annuel. Alors, comment briser ce cycle ? Les experts s'accordent sur plusieurs points. La formation des managers aux techniques du feedback positif et constructif, l'encouragement d'une culture d'entreprise où le dialogue ouvert et honnête et valorisé est essentiel, et enfin, la mise en place de moments réguliers dédiés à l'échange de retours. D'ailleurs, j'ai consacré un épisode entier de Happy Work à la culture du feedback la semaine dernière. Il est également crucial de rappeler que le feedback n'est pas à sens unique. La création d'un espace sécurisant où les salariés peuvent également exprimer leurs ressentis et besoins contribue à un environnement de travail plus transparent et équilibré. Oui, le feedback, cela ne va pas que dans un sens. En fait, ces études nous invitent à une introspection sur nos pratiques managériales et notre capacité à communiquer au sein des équipes. Elles nous rappellent l'importance de la reconnaissance, du dialogue et du soutien mutuel pour le bien-être et la réussite collective. Comme je le dis souvent, la libération de la parole en entreprise est l'une des clés fondamentales du bien-être au travail. L'Observatoire Segos a révélé que 65% des managers se montrent optimistes quant à l'avenir de leur entreprise. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et cette tendance positive ne s'arrête pas là. Une étude de Michael Page indique que 70% d'entre eux estiment que leur équipe est parfaitement capable de surmonter les défis futurs. Mais que nous disent réellement ces chiffres ? L'optimisme, en fait, bien plus qu'un état d'esprit, est un moteur de performance et d'innovation. Ce sentiment généralisé chez les managers reflète une confiance dans le potentiel humain et dans les capacités d'adaptation de leurs équipes. Mais d'où vient cet optimisme ? Est-ce le résultat de stratégies managériales spécifiques, d'une culture d'entreprise solide ou encore de la reconnaissance des talents individuels et collectifs ? Cette foi en l'avenir et dans les compétences de leur équipe n'est pas un heureux hasard. Elle s'appuie sur des pratiques managériales qui mettent l'accent sur le développement des compétences, l'autonomie et l'encouragement à l'innovation. Les managers, par leur approche, semblent prêts à relever les défis, qu'ils soient technologiques, économiques ou sociaux. Mais alors comment maintenir cet optimisme face aux incertitudes ? La clé réside dans la communication transparente, la reconnaissance des réussites et la capacité à transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage. En instaurant un climat de confiance, les managers favorisent un environnement où les équipes se sentent soutenues et valorisées. Bien entendu, cela booste leur motivation. L'optimisme managérial influence directement le moral des troupes. Comme je le dis souvent pendant mes conférences, une équipe ressemble toujours à son manager. Une équipe qui se sait capable de surmonter les challenges à venir est une équipe engagée, créative et résiliente. C'est dans cet esprit que les entreprises peuvent non seulement naviguer à travers les tempêtes, mais aussi se réinventer. Si moi, en tant que collaborateur ou collaboratrice, je sais que mon manager croit en moi, cela va me booster. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces deux études ? Premièrement, l'importance de cultiver un leadership positif et visionnaire. Deuxièmement, la nécessité de renforcer les liens et la cohésion d'équipe. Et enfin, l'impératif de préparer les équipes aux défis de demain, non pas avec appréhension, mais avec assurance et anticipation. Je crois profondément que la confiance réciproque, celle que le manager accorde aux équipes et celle que les équipes accordent au manager, est absolument essentielle pour bien vivre au quotidien son travail. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, bien qu'intimement lié à notre vécu professionnel, demeure souvent dans l'ombre, le syndrome de l'imposteur. Avec deux études récentes, l'une par la NDRH en 2023, révélant que 62% des managers français se sentent touchés, et l'autre par Malakoff Humanis en 2022, montrant que 59% des salariés ont rencontré ce syndrome au cours de leur carrière. Il est clair que ce phénomène dépasse largement le cadre individuel pour toucher le cœur de notre culture professionnelle. Quelles sont les implications de ces découvertes pour les managers et leurs équipes ? C'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Le syndrome de l'imposteur, cette impression persistante de ne pas mériter son poste ou ses succès, malgré des preuves évidentes du contraire, semble être un fil rouge qui relie un grand nombre de professionnels. Mais pourquoi est-il si répandu et comment se manifeste-t-il spécifiquement chez les managers comparativement aux salariés en général ? Ce syndrome se nourrit du perfectionnisme, de la peur de l'échec et de la difficulté à accepter le succès. Chez les managers, la pression de devoir constamment prouver leur valeur peut intensifier ces sentiments. Pour les salariés, le syndrome peut émerger de comparaison avec des collègues ou de l'incertitude quant à leurs compétences réelles. Il est tout de même intéressant de noter que le syndrome de l'imposteur touche plus les managers que les salariés, peut-être dû aux responsabilités. L'omniprésence du syndrome de l'imposteur parmi les managers et les salariés a des répercussions significatives sur le climat du travail, la productivité et le bien-être au sein des entreprises. Les managers qui doutent de leur capacité sont moins enclins à prendre des décisions fermes et peuvent, involontairement, projeter leur insécurité sur leurs équipes. Parallèlement, les salariés qui luttent contre ces mêmes sentiments peuvent hésiter à saisir des opportunités de développement, créant un cycle de doute et d'hésitation qui affecte l'ensemble de l'organisation. Reconnaître l'ampleur du problème est la première étape, mais comment managers et salariés peuvent-ils travailler ensemble pour surmonter le syndrome de l'imposteur ? En fait, la clé réside dans la création d'une culture d'entreprise fondée sur la confiance, l'ouverture et la reconnaissance. Encourager les discussions sur les défis personnels comme le syndrome de l'imposteur peut aider à normaliser ces expériences. De plus, développer des programmes de mentorat et de coaching peut fournir le soutien nécessaire pour que chacun puisse reconnaître et célébrer ses propres succès et compétences. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène profondément humain, mais il n'est pas insurmontable. En abordant ce sujet ensemble, managers et managers peuvent construire un environnement de travail plus sain et plus épanouissant. Une étude récente de Malakoff Humanis a mis en lumière que 40% des salariés ressentent un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alors, comment retrouver cet équilibre si crucial? C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. L'étude de Malakoff Humanis révèle non seulement un sentiment de déséquilibre croissant parmi les travailleurs, mais souligne également les conséquences néfastes de ce phénomène sur le bien-être général, la productivité et même la santé mentale. Qu'est-ce qui contribue à ce déséquilibre? Les réponses varient. Heures de travail prolongées, pression constante pour atteindre des objectifs toujours plus élevés, difficultés à déconnecter en fin de journée. En fait, ce que nous voyons, c'est que le flou entre vie professionnelle et vie privée est devenu plus prononcé, notamment avec l'essor du télétravail. Il est essentiel que les entreprises prennent des mesures pour aider leurs employés à mieux gérer cette frontière, notamment en les formant. Pour mieux comprendre l'impact de ce déséquilibre, je vais vous livrer deux témoignages que j'ai reçus sur mon site web par email. Une personne me dit « Je finis souvent par travailler tard le soir et cela empiète sur mon temps familial. C'est comme si je ne pouvais jamais vraiment éteindre le mode travail. » Le deuxième témoignage. Le week-end, je suis tellement épuisé que je passe à côté de moments précieux avec mes amis et ma famille. J'aimerais trouver un meilleur équilibre, mais je ne sais pas par où commencer. Face à cette situation, quelle stratégie pouvons-nous adopter pour retrouver un équilibre sain entre notre vie pro et notre vie perso? Il est crucial de commencer par établir des limites claires entre le travail et la maison. Cela peut signifier avoir un espace de travail dédié chez soi, définir des horaires de travail précis et surtout apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. De plus, encourager le dialogue avec les employeurs sur la flexibilité des horaires et la reconnaissance du besoin de temps de repos est essentiel. Les entreprises jouent aussi, bien entendu, un rôle déterminant dans la promotion de cet équilibre. Cela passe par une politique claire de droit à la déconnexion, la mise en place de programmes de soutien au bien-être des employés et la promotion d'une culture d'entreprise qui valorise le temps personnel. De plus en plus d'entreprises, et je pense au siège social de Volkswagen, coupent les serveurs mail à partir de 17h30 en fin de journée et les réouvrent à 7h du matin. Afin de faire passer un message clair, vous ne faites pas d'email pendant la nuit. Retrouver l'équilibre entre vie pro et vie perso est un défi dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est un investissement essentiel dans notre santé et notre bien-être. En adoptant des stratégies proactives et en travaillant ensemble, employés et employeurs peuvent créer un environnement de travail plus sain et plus équilibré. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.